Suite, le journal de la mi-journée.
Bonjour, l'actualité du jour est fédérale. C'est peut-être la dernière pièce du puzzle pour comprendre le naufrage de Crédit Suisse. Un an et demi d'enquête, le rapport de la commission parlementaire pointe ce matin des manquements à tous les niveaux. On vous détaille le rapport et on fait réagir notre spécialiste du dossier, Mathilde Farine. Et puis peut-être bientôt de la fumée blanche pour l'accord cadre entre Berne et Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en Suisse en début d'après-midi. La justice italienne va-t-elle condamner Matteo Salvini à 6 ans de prison? Le verdict doit tomber aujourd'hui. Il y a 5 ans, le vice-premier ministre de Giorgia Meloni avait empêché un bateau de personnes migrantes de débarquer sur l'île de Lampedusa. Dans ce journal aussi, les skieurs suisses qui tentent de confirmer leur bonne forme au Super G de Val Gardena, les coulisses du probable shutdown aux États-Unis et la vie des femmes dans la région syrienne d'Idlib. Bientôt, les fêtes de fin d'année et les repas à rallonge, souvent copieux. Alors, comment bien manger? Eh bien, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Reportage dans une classe vaudoise et vous entendrez une spécialiste de l'éducation à l'alimentation. Météo, après le gris, normalement un peu de soleil, pas plus de 4 degrés en pleine. On est ensemble pendant une demi-heure. Bienvenue! Qui est responsable du naufrage de Crédit Suisse? La commission d'enquête du Parlement fédéral a voulu répondre à cette question. Elle a mené des investigations pendant un an et demi, consulté d'innombrables documents, procédé à des auditions orales et écrites. Ses 14 membres, tous élus fédéraux, ont présenté leur rapport ce matin. Bonjour Phileas Sautier.
Bonjour Pauline, bonjour tout le monde.
Alors vous avez consulté ce rapport, qui sont les coupables?
Alors ce sont avant tout, aux yeux de la Commission, les dirigeants de Crédit Suisse, le conseil d'administration, la direction et la politique qu'ils ont menée les années avant la disparition de la banque. Aux yeux de la Commission, ce sont eux les responsables de la perte de confiance des investisseurs et de la fuite en masse des capitaux.
Et quelle responsabilité des autorités suisses?
Alors elles sont au cœur du rapport de la commission d'enquête parlementaire, le Conseil fédéral notamment, et plus précisément les chefs du département des finances. Je dis les, car il y en a deux. D'abord l'UDC Uli Maurer, puis dès janvier 2023, la PLR Karine Keller-Sutter. La commission pointe du doigt une mauvaise communication trop partielle à plusieurs reprises avec le reste du Conseil fédéral. Peu d'informations transmises également lorsqu'Uli Maurer a remis les clés de son département à Karine Keller-Sutter dans les derniers jours de 2022. Mais la commission d'enquête ne fait pas d'eux les coupables de la débâcle de Crédit Suisse, selon sa présidente Isabelle Chassot.
Il n'a jamais été question, et c'est important de le mentionner, d'indiquer que nous estimions qu'un conseiller fédéral était plus responsable que l'autre, bien au contraire. L'information n'a pas bien circulé en 22, elle n'a pas circulé de manière complètement non plus idéale en 23. Il faut vous rappeler à quel moment nous étions. C'était au moment aussi, évidemment, où il y avait de nombreuses fuites au Conseil fédéral et un certain nombre aussi, de ce point de vue-là, soucis quant au maintien de la confidentialité.
Phileas, ce serait donc un problème de gestion de crise, tant au niveau du Conseil fédéral qu'à la tête de la banque?
Alors oui, mais pas seulement. La commission d'enquête parlementaire critique aussi l'encadrement de la banque, le Parlement et le Conseil fédéral qui ont, dès 2015, freiné la réglementation bancaire qui doit pourtant préserver la stabilité financière des grandes banques, trop grandes pour faire faillite, too big to fail en anglais. Et aussi la FINMA, l'autorité de surveillance des marchés financiers, elle est aussi pointée du doigt, notamment pour un assouplissement sur les règles concernant les fonds propres, ce qui a donné une fausse image de la santé financière de la banque.
Vos précisions, Phileas Sautier, en direct de Berne. Et on continue de parler du naufrage de Crédit Suisse avec vous, Mathilde Farine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chez nous au sein de la rubrique économique et vous avez publié cet ouvrage « La chute, chronique de la débâcle d'une banque » paru chez Slatkin. Alors Mathilde, est-ce que cette commission d'enquête parlementaire a joué son rôle?
Alors je dirais oui et non. Oui, dans le sens où elle a fait un travail d'enquête minutieux, long, 18 mois. Elle a interrogé beaucoup de gens, lu énormément de documents publics ou non. Mais je dirais aussi non dans le sens où on a l'impression qu'elle ne va pas jusqu'au bout de l'exercice. Elle décrit dans son rapport un système complètement dysfonctionnel. Alors, à tous les étages. Alors, évidemment, plus à l'étage de la banque et des responsables de la banque, mais ça, on le savait avant la publication du rapport. Et puis, quand elle va entre les autorités, il y a eu des dysfonctionnements à l'intérieur, entre elles, des problèmes de communication. Mais elle fait pas le dernier kilomètre de dire, mais dans le fond, Qui est responsable? Et tout à l'heure, on vient d'entendre Isabelle Chassot qui dit on ne veut pas mettre la faute sur un conseiller fédéral ou un autre, alors que tout le rapport parle de Ouli Maurer et de son manque de communication, du fait qu'il n'a pas donné toutes les informations au conseil fédéral, qu'il a peut-être un peu sous-estimé la situation.
Et parlons du rôle de la FINMA dans cette affaire. La FINMA, Mathilde, c'est l'autorité de surveillance des marchés financiers. Est-ce qu'on peut dire que dans le cas de Crédit Suisse, elle a failli à sa mission?
Alors, là encore, le rapport le dit pas comme ça, mais elle lui fait des reproches, notamment d'avoir assoupli les conditions de ses fonds propres et ça a donné une image complètement fausse de sa santé financière. Donc ça induit en erreur, ça l'a induit elle-même en erreur. On a eu l'impression que Crédit Suisse était en bonne santé alors qu'elle l'était pas bien avant sa chute. Elle lui reproche aussi d'avoir beaucoup. Elle reconnaît qu'elle a joué son rôle. Elle s'est préoccupée de tous les points qui posaient problème, la gouvernance, les rémunérations, la gestion du risque. Mais dans le fond, elle a jamais réussi à avoir un effet. Elle lui a fait des recommandations, elle lui a demandé de faire des changements, mais Crédit Suisse n'a pas changé. Donc on a un régulateur qui aboie mais qui ne mord pas.
Un régulateur qui aboie mais qui ne mord pas. Est-ce qu'il faudrait réformer cette instance? Quels outils mettre en place pour qu'un autre Crédit Suisse n'arrive pas?
Alors, pour ce qui est des grandes banques, des banques qu'on appelle « too big to fail », il faut quand même garder à l'esprit qu'il n'y a pas de situation absolument sans risque, même si le régulateur avait plus d'outils. Mais cela dit, il pourrait en avoir quand même plus. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Il y a des outils que la FINMA a pas. Elle peut pas mettre d'amende. Elle peut pas. Elle demande aussi de mieux pouvoir identifier les responsables bancaires et les responsabilités qui leur incombent. C'est ce qui permet après de dire vous avez failli à votre mission, vous êtes mis en cause. Elle aimerait aussi pouvoir plus publier d'informations sur le travail qu'elle fait, les décisions qu'elle prend. Ça, c'est des choses que la plupart des autres régulateurs des autres pays qui sont autour de nous ont déjà.
Et ce serait possible que ça arrive en Suisse aussi, qu'on ait ces outils?
Alors, la FINMA les demande depuis le début de la crise. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi elle a attendu que la crise se passe. Est-ce qu'elle devait bien voir elle-même que malgré toutes les mesures qu'elle demandait, elle n'avait pas d'impact. Donc, elle les a demandées. On sait qu'elle a le soutien d'une partie du Parlement. Maintenant, voilà, c'est un processus politique qui est en cours.
Votre éclairage, Mathilde Farine, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci.
Et l'autre grande actualité du jour en Suisse, c'est le résultat attendu des négociations avec l'Union européenne sur un nouveau paquet d'accords. Jean-Marc Heuberger, c'est confirmé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va bien venir à Berne cet après-midi.
Oui, Ursula von der Leyen s'exprimera devant les médias à 14h15 aux côtés de la présidente de la Confédération, Viola Amert. Les deux femmes devraient sceller la fin des négociations entre Berne et Bruxelles. La Suisse et l'Union européenne auraient enfin réussi à s'entendre sur la façon de faire évoluer et de stabiliser leurs relations. À 15h, ensuite, trois conseillers fédéraux, Ignacio Cassis, Beat Jans et Guy Parmelin, se présenteront également devant la presse. On s'attend à ce qu'ils présentent les détails des nouveaux accords ainsi que les mesures d'accompagnement prévues en Suisse. L'UDC, elle, a pris les devants. À l'aube, son groupe aux chambres a manifesté devant le Palais fédéral. Il dénonce un paquet de mensonges qui, je cite, va anéantir la démocratie directe et soumettre la Suisse aux juges de la Cour européenne de justice.
Jean-Marc Berger en direct de Berne. Et après les actualités fédérales, place à l'actualité sportive. En ski alpin, Marco Odermatt devra encore patienter avant de dompter la Sasslonge, la piste de Val Gardena. Bonjour Alain Thévaux.
Bonjour Pauline.
On vous retrouve dans la station des Dolomites où les Suisses sont quand même bien placés.
Oui, pour l'heure, Marco Odermatt est deuxième à 43 centièmes de Mattia Cassel, l'Italien. Stéphane Rogentin complète le podium provisoire à égalité avec Cameron Alexander, le Canadien, à 57 centièmes. La course qui a longtemps été interrompue suite à la chute d'Ankelmeyer, l'Autrichien. La course qui vient de reprendre et Von Allmann vient d'en terminer. Il est 12e à noter encore le 10e. sixième temps de Justin Murizier. Mais il est vrai que Marco Dormat va devoir encore patienter avant d'aller chercher un 40e succès en Coupe du Monde.
Et Alain, le classement n'est pas encore définitif.
Non, parce que on sait qu'à Valgardena, souvent il y a des surprises, surtout avec les dossards élevés, mais aussi lorsque le soleil brille. Et aujourd'hui, il vente, il y a du brouillard, il neige, donc il y aura peut-être pas trop de rebondissements. Mais il est vrai qu'il faut toujours être prudent à Valgardena. On peut relever que Mattia Cassé, s'il confirme sa victoire à 34 ans, presque 35 ans, ça serait sa première victoire en Coupe du Monde. Il a été champion du monde des descentes juniors en 2010. C'est son 201e départ en Coupe du Monde et il compte à son actif 3 podiums, 3 troisième places et peut-être une victoire aujourd'hui.
Peut-être encore des surprises. La fin de ce Super G est à suivre dans nos rendez-vous d'information et en images sur RTS2. Merci Alain Thévaux en direct de Valgardena. Les États-Unis sont au bord du shutdown, la fermeture de l'administration fédérale faute de financement. Miruna Coca-Cosma, la Chambre des représentants a rejeté hier le nouveau projet de budget soutenu par le président élu Donald Trump.
Oui, échec retentissant pour le camp républicain majoritaire dans la Chambre des représentants, pour Donald Trump aussi et pour son allié milliardaire Elon Musk qui ont torpillé le premier compromis que les républicains et les démocrates avaient conclu afin d'éviter un shutdown impopulaire pendant les fêtes de Noël. Le nouveau texte de loi comprenait notamment une disposition voulue par Donald Trump, un report de l'échéance sur le plafond de la dette à janvier 2027. Il n'a même pas obtenu la majorité simple. Sans accord d'ici demain matin, 6h, heure suisse, la paralysie des services publics fédéraux entraînerait notamment le chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires ou encore le gel de plusieurs aides sociales.
Et comment on explique ce blocage ?
Eh bien, les démocrates ont voté en bloc contre ce texte qu'ils jugent pas sérieux et risible. Mais surtout, 38 républicains les ont rejoints. Le président de la Chambre, Mike Johnson, promet de trouver une solution, mais il est pris en étau entre les démocrates qui veulent revenir à l'accord initial et l'aile droite de son parti qui exige des coupes budgétaires drastiques. Un épisode qui laisse entrevoir à quoi pourrait ressembler le futur mandat du président élu Donald Trump, peu soucieux des conventions, quitte à déclencher un certain chaos.
Vos précisions, Miruna Coca-Cosma. Partons maintenant en Syrie, la Syrie qui vit sans Bachar el-Assad depuis près de 2 semaines. Comment le pays sera-t-il gouverné ? Faut-il craindre le groupe islamiste HTS qui a renversé l'ex-président ? Ce groupe gouverne déjà depuis 2017 la province d'Idlib, enclave de 4 millions d'habitants. Avec ses propres ministères, ses universités, ses hôpitaux et l'application de la loi religieuse islamique, la charia, notamment pour les femmes. Reportage Manon Chaplin.
Des femmes de ce café, on ne distingue que le regard. Elles portent toutes ici le niqab et sont assises dans la partie qui leur est réservée. Une palissade les sépare des hommes et des familles. Zakaria, le serveur, nous fait la visite.
Ça fait des années que c'est une tradition dans notre ville. Lorsqu'elle a été libérée du régime de Bachar al-Assad, ça a ensuite été imposé par une loi du groupe HTS. Tous les restaurants et cafés fonctionnent ainsi. Ça convient très bien à tout le monde.
À l'une des tables, 4 étudiantes partagent un thé. Elles viennent tout juste de sortir de l'université. Depuis 2017 et la prise de pouvoir de HTS, à Idlib, elles y ont également des cours et des bâtiments séparés. Sans cela, Aoula n'y serait jamais allée.
Il y a beaucoup d'inconvénients à mélanger les hommes et les femmes dans une même classe. Le premier est que nous ne pouvons pas enlever notre voile, c'est moins confortable. Et puis nous pouvons nous sentir timides ou gênés dès lors que nous devons faire un exposé.
À Idlib, un tiers des femmes portent le niqab. Le groupe HTS impose qu'elles soient également habillées de vêtements larges jusqu'aux chevilles. Et même si elles étudient, peu d'entre elles ont ensuite accès à l'emploi. Nour prend le soleil sur la place centrale avec ses deux filles.
Je souhaite que ces lois soient appliquées à toute la Syrie. Il y a ici beaucoup de respect envers les femmes. On se sent à l'aise comme si l'on était membre d'une même famille. En tant que femme, sous le régime d'Assad, on avait l'impression de vivre dans une jungle. Ici, tout se passe bien, grâce à Allah.
Depuis sa prise de pouvoir en Syrie, le groupe HTS multiplie les déclarations pour assurer qu'une certaine liberté sera accordée aux femmes et aux minorités. Pour le moment, aucune règle n'a été édictée. Une nouvelle constitution est en cours de rédaction.
Manon Chaplin pour RTS Info à Idlib.
Toujours dans l'actualité internationale en Italie, le vice-premier ministre Matteo Salvini attend aujourd'hui le verdict du procès dit Open Arms du nom d'un navire humanitaire. Le patron de la Lega à l'extrême droite risque 6 ans de prison. Bonjour Antonino Gallofaro.
Bonjour.
Matteo Salvini est accusé d'avoir séquestré en 2019 147 personnes migrantes sur le navire d'une ONG.
Oui, mais il se dit innocent, il rejette l'accusation, pas les faits. Hein. Il ne dément pas avoir empêché 147 personnes de débarquer en Sicile, de les avoir bloquées à bord du navire de l'ONG espagnole Open Arms pendant 19 jours dans des conditions sanitaires précaires. S'il l'a fait, c'était pour défendre les frontières italiennes, mandat reçu, répète-t-il, par les électeurs, à savoir freiner l'immigration clandestine. Ce matin, il s'est donc dit fier d'entrer dans un tribunal pour avoir défendu son pays, ce sont ses paroles. Il est encouragé par le soutien des leaders européens extrême droite qu'il a rencontré cette semaine à Bruxelles et surtout par les paroles d'Elon Musk. L'entrepreneur américain a affirmé hier sur la plateforme X que juger Salvini pour avoir défendu l'Italie était fou. Ce procès, c'est aussi paradoxalement l'occasion de récupérer des électeurs. La lutte contre l'immigration clandestine était son cheval de bataille, repris par Giorgia Meloni lorsqu'elle est devenue première ministre en 2022. D'ailleurs, pendant que Matteo Salvini se trouve à Palerme pour son procès, elle a rencontré ce matin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour parler justement d'immigration.
Merci Antonino Gallofaro, Ursula von der Leyen, qui sera en Suisse cet après-midi. La fin de l'année approche et en Russie, c'est le moment où Vladimir Poutine s'adresse à sa population et aux médias du monde entier. Le président russe a tenu hier sa fameuse conférence de presse annuelle. Il s'est dit prêt à dialoguer avec l'Ukraine sur les réalités du terrain. Pour Elsa Vidal, rédactrice en chef du service en langue russe de RFI, ce discours, c'est surtout une manière pour Vladimir Poutine d'asseoir son pouvoir, d'affirmer sa maîtrise de tous les sujets.
Il cherche à établir un dialogue stratégique avec le seul interlocuteur qui ait jamais eu de valeur à ses yeux, c'est-à-dire les États-Unis, dont le nouveau chef sera à partir du 20 janvier prochain Donald Trump. C'est à lui qu'il réserve sa volonté de dialogue sur les bases des réalités du terrain, donc en gardant les territoires conquis. Et il rappelle à quel point son objectif est de rétablir la Russie comme co-gestionnaire de l'ordre mondial et comme donc équivalente, homologue et donc aussi forte que les États-Unis, la superpuissance qu'il dénonce.
Je lisais hier soir le journaliste spécialiste de la Russie, Paul Gogo, disait qu'après avoir entretenu le sentiment guerrier de la population russe, Vladimir Poutine essayait peut-être de la préparer à la paix. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Oui, il prépare une transition vers des négociations qui seraient des négociations en position de force. Ce que Vladimir Poutine a fait de véritablement surprenant, pour moi, dans cette 23e édition de la ligne directe, c'est de ramener un petit peu de réel dans cet exercice. Il a parlé de l'inflation, il a parlé des difficultés que cela pouvait représenter, et il a donc laissé un petit peu de place aux attentes des Russes, ce qui lui permet en effet d'envisager une sortie de crise qui est ardemment attendue par la population russe également, mais en le présentant comme un gain et comme le résultat logique de ces entreprises. Et bien sûr, c'est la dénonciation de l'agressivité de l'OTAN et de l'Occident. Et ça, c'est aussi la petite musique de fond. Ce que Vladimir Poutine ne dit pas, ne dit jamais, c'est que cette emprise sur l'Ukraine et sur les anciens pays de l'Union soviétique, il ne s'agit pas d'une réponse à l'élargissement de l'OTAN. C'est ce que demandait déjà Boris Yeltsin à la fin de son mandat en 1999 à Bill Clinton, lors d'un sommet à Istanbul, ce que nous avons découvert grâce à des documents déclassifiés de la CIA.
Elsa Vidal répondait à Éric Guevara-Frey. Et on revient en Suisse, à Lausanne, avec la future place de la gare qui fait des remous. Ce qui crispe notamment, c'est la place accordée aux voitures. La mise à l'enquête de la future esplanade et ses environs s'est terminée hier. Bonjour Camille Bess.
Bonjour.
Réalisation prévue pour 2036 au plus tôt et le projet compte une dizaine d'oppositions.
Oui, piétons, voyageurs, cyclistes, automobilistes, la future place de la gare doit répondre aux besoins d'une multitude d'acteurs. Ceux qui représentent la mobilité douce ne sont pas satisfaits. La section vaudoise de l'association Transport et Environnement demande un accès réservé uniquement aux piétons. Son secrétaire, Romain Piou.
Aujourd'hui, on demande que le trafic de transit s'arrête pour les voitures, sauf pour les personnes à mobilité réduite et les taxis, et puis qu'il n'y ait que les bus qui passent sur la place de la gare pour pouvoir sécuriser le tracé et fluidifier également le passage des bus. Il faut acter que la future gare et ses usages ne sont pas compatibles avec le trafic automobile, en particulier parce qu'il est prévu notamment d'avoir une zone 30. Or, les piétons ne seront pas prioritaires s'il y a une zone 30 et ça risque de poser des problèmes de sécurité et de dangerosité.
La question du trafic préoccupe aussi l'association d'habitants Péri-Razud. Ses membres craignent au contraire un manque de places de parc, mais aussi une circulation trop limitée, avec comme conséquence des rues annexes bouchonnées et l'impossibilité d'atteindre rapidement la gare. Sa présidente Sylvia Eger est inquiète pour les futurs voyageurs.
Ils n'auront pas accès vu que ça va être bloqué, 30 km/h, bus arrêt bloquant. Il faudra compter une heure de plus pour pouvoir prendre le train si on habite à Lutry.
À noter que le nombre d'oppositions peut encore augmenter puisque c'est bien le cachet de la poste qui fait foi.
Merci Camille Bess.
Le 12-30, Pauline Rapa.
Des saveurs, des odeurs, des textures. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va parler de ce qu'il y a dans nos assiettes. Bonjour Céline Ohayon.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bah, merci à vous d'être à mes côtés dans ce studio à Lausanne. Vous êtes biologiste spécialisée en nutrition et didacticienne de l'éducation à l'alimentation à la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud. Est-ce que bien manger, manger tout court, ça vous intéresse depuis que vous êtes toute petite ?
Non, pas forcément. C'est venu sur le tard pour des raisons de santé tout d'abord et puis après par intérêt.
D'accord. Bah, on va parler avec vous d'éducation à l'alimentation juste après avoir écouté ce reportage de Zoé Decker pour Ici la Suisse.
Je vais couper des petits morceaux. Maintenant, vous pouvez le sentir avec le nez.
C'est une pizza.
Est-ce que c'est une odeur qui est forte, qui est légère? C'est épicé, comment c'est pour vous?
Aujourd'hui, dans cette classe de 3P du collège Kiwi à Aigle, les élèves découvrent le pain.
On va croquer un petit morceau. Mmh. Camille.
C'était très salé, ouais. Et un peu sucré.
Ces enfants de 6-7 ans vont même mettre la main à la pâte.
Mais vous allez en faire. Yeah, on va avoir besoin de seulement 4.
Cette activité fait partie d'une nouvelle discipline au programme de l'école vaudoise, l'éducation à l'alimentation.
Et puis, du sel. Et c'est un projet cantonal qui va vraiment couvrir toute l'école obligatoire, du cycle 1 jusqu'au cycle 3.
Amélie Hagman est enseignante. Elle a participé activement à la création de ces cours.
L'éducation à l'alimentation se travaille donc de manière interdisciplinaire, mais elle a aussi ses propres objectifs, justement, en termes de santé, d'approche environnementale, de culture aussi.
Ça, c'est comme des spaghettis.
Non, mais pas des céréales.
Avec les petits, on va revenir à ce qui est aliments de base, comment ils sont faits, d'où ils viennent. On va aussi beaucoup travailler ce qui est sensoriel, redécouvrir les goûts, le plaisir de goûter, de découvrir des aliments, travailler un peu plus le côté nutritionnel.
Moi, je connais pas trop la recette.
Vous avez déjà fait comme ça la cuisine à l'école ?
Oui, on a fait des tartines. Une tarte au poireau.
Ce qu'on peut remarquer quand on fait régulièrement de l'éducation à l'alimentation, c'est que des enfants, ils vont oser goûter plus facilement, ils vont avoir envie de faire, de reproduire à la maison.
On a de la farine.
On a quand même beaucoup de retours positifs, autant des enfants que de leurs parents aussi.
On mélange la pâte avec nos doigts.
Ça va être trop bon.
Un enthousiasme qui reste fragile dans un contexte où notre rapport à la nutrition s'est profondément transformé au fil du temps.
On a 1300 étudiants sur le campus.
Et les hautes écoles de santé, comme celle de La Source, en sont bien conscientes.
Et là, ça discute. De nutrition ? Un coca à la main ?
Oui, non. Alors, ceux-là, ils ne sont pas venus en cours avec moi.
Dominique Truchot-Cardo est médecin nutritionniste, enseignante ici à La Source. Elle est responsable du laboratoire d'innovation.
À l'heure actuelle, on arrive à des troisième génération qui n'ont jamais vu personne cuisiner. Donc on se retrouve maintenant avec des arrière-grands-parents qui ont jeté ou des grands-parents qui ont jeté leur culture originale, donc leur mémoire gustative, des parents qui se sont mis à travailler beaucoup, qui n'ont pas cuisiné. Et puis là, une génération où vous allez avec de la cuisine toute faite. Et voilà, donc on a des enfants à l'heure actuelle qui n'ont jamais vu personne cuisiner.
En 30 ans, le taux d'obésité a quadruplé chez les enfants.
On se retrouve quand même avec des gens à 35 ans qui font un infarctus. Et puis quand on regarde leur coronaire, ils ont plus de 20 ans d'évolution d'hypertension ou de cholestérol. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont commencé l'hypertension, ils avaient 15 ans. On est le pays avec la plus grande longévité au monde. Et si vous regardez bien dans les détails, on a rajouté des années de vie, mais pas de la vie aux années.
40% des cancers et 80% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées grâce à une alimentation équilibrée. Pour Dominique Truchot-Cardo, il est
est temps d'enclencher le mode prévention.
Les enfants sont d'excellents vecteurs sur toutes les éditions et tous les pays où il y a eu 5 fruits et légumes, avec ces petites pubs là qui nous mettaient la tête au carré. Les enfants ont ramené ça dans les familles et on a constaté après les diffusions, il y avait toujours plus d'achats de fruits et légumes. Il faut réagir là. On a des dépistages extraordinaires, cancer du sein, rectum. Bah, pourquoi on ne ferait pas de la prévention nutritionnelle à ce niveau-là, dès le plus jeune âge, donc les enfants tout petits.
Ça sent trop.
Céline Hoyon, vous êtes toujours avec nous, biologiste spécialisée en nutrition, didacticienne de l'éducation à l'alimentation à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. On vous a vu sourire quand on a parlé de soda.
Oui, mais pas plus particulièrement que ça, parce que c'est un petit peu la vie de tous les jours de tout un chacun.
Pleine de contradictions. On peut manger sain et puis boire un soda aussi.
Exactement.
Alors Céline Hoyon, vous êtes l'instigatrice de ces cours d'éducation à l'alimentation. Ils sont donnés depuis la rentrée scolaire de cette année dans le canton de Vaud, si je me trompe pas. Ça manquait, ce genre de cours ?
Oui, alors carrément, je précise juste qu'ils sont donnés pour l'instant pour les 1 à 2P et on va faire tous les cycles de toute la scolarité obligatoire dans les années à venir. Donc il n'y a que le cycle 1 et le début du cycle 1 qui peut avoir accès présentement à ces séquences d'enseignement. Donc oui, on est vraiment dans des enjeux sociétaux qui sont plus qu'actuels. Hein. On aimerait former à l'éducation, à l'alimentation pour répondre à ces préoccupations de santé publique et de durabilité. Et ça nous paraissait absolument impossible de passer outre. Mais au-delà de convictions personnelles, c'est vraiment une volonté du Grand Conseil, hein, en réponse à plusieurs interventions de parlementaires, d'offrir une éducation à l'alimentation tout au long de la scolarité obligatoire dans le canton de Vaud.
Et on entendait dans le reportage ces enfants. Bien manger, ça s'apprend dès le plus jeune âge ?
Alors oui, vraiment, ça s'apprend dès le plus jeune âge, mais ça s'apprend pas avec des tables de nutrition ou des valeurs énergétiques. Ça s'apprend par le faire, par le être. Et c'est vraiment tout un apprentissage qui passe par la manière de vivre chez soi, mais aussi par une éducation à l'alimentation qu'on peut faire en classe. On voit que si on suit régulièrement des ateliers sensoriels, si on présente aux enfants la diversité alimentaire, qu'on va au marché avec eux, qu'on utilise le jardin potager pour, par exemple, faire pousser des fruits et légumes, qu'on va cuisiner après avec eux ces fruits et légumes. Au fait, il y a une implication émotionnelle dans toutes ces tâches qui leur permet déjà d'avoir un bagage aussi dans tout ce qui est psychosocial et développement de l'autonomie qui est pour eux vraiment une grande fierté, mais qui associe à ces aliments quelque chose de positif. Une image cérébrale qui est positive face aux légumes, par exemple. Et du coup, après, ils associent cela tout au long de leur vie.
Donc, on l'entend, c'est plutôt la pratique que la théorie qui marche bien. Et puis, vous parlez d'associer des images positives. Il y a des parents, plein de parents qui nous écoutent. On dit souvent que c'est bien d'être curieux, de tout goûter. Mais est-ce qu'il faut forcer les enfants à goûter ?
Alors non, en fait, faut absolument pas forcer les enfants à goûter, faut les laisser aller à leur rythme. Des fois, pour un enfant, juste regarder un aliment ou le sentir, c'est déjà une étape importante. Faut savoir qu'entre l'âge de 2 ans et demi à 8 ans, il y a ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. C'est la peur de tout aliment qui peut être nouveau. Et souvent, les enfants aiment manger que des pâtes, du pain ou du riz, des choses assez neutres, parce que ça leur procure un sentiment de sécurité. Et du coup, faut absolument pas les forcer. Il faut au contraire associer chaque aliment à un contexte positif. Parce que c'est clair que si on entend dès le plus jeune âge, finis tes légumes, parce que sinon tu vas pas pouvoir aller faire du sport ou tu vas être puni, il va vraiment cérébralement imprimer cette image d'association de légumes négativement. Et après, quand il va voir un légume, il va pas pouvoir le manger de manière positive. Et puis par contre, on associe souvent les gâteaux, les bonbons à une image positive lors des anniversaires. Et on a après cette ambivalence entre bien manger et puis le fait d'apprécier manger. Et puis au fait, il faut les laisser tout simplement aller à leur rythme.
Un mot encore du rôle de l'école. Parfois, on grandit dans une famille qui n'a pas cette éducation à l'alimentation. L'école peut donc prendre le relais. Et puis c'est parfois en fait les enfants qui enseignent après aux parents.
Oui, alors ça, on le voit tout à fait dans les nouvelles séquences d'enseignement qui sont déjà effectives et testées sur le terrain depuis plus d'une année. Donc il y a vraiment beaucoup de retours des élèves qui rentrent chez eux et qui vont reproduire et qui demandent de reproduire ou d'acheter par exemple des fruits et légumes ou du fromage qu'ils auraient testé en classe. On n'est pas là pour dire aux parents ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Hein. On n'est pas là dans des concepts d'injonction. On est plutôt là pour éduquer, pour apprendre, pour donner des clés pour que pour leur futur ils puissent consommer de manière à favoriser leur santé et aussi celle de l'environnement. et à les ouvrir à la diversité alimentaire et au monde actuel.
Donc pas de culpabilité, mais gardez le plaisir. Céline Ohayon, biologiste spécialisée en nutrition, didacticienne de l'éducation à l'alimentation à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Merci d'avoir passé quelques minutes avec nous dans ce 12-30. Bonne journée.
Merci à vous, pareil.
Après une matinée sous la grisaille, le temps devrait être en partie ensoleillé sur le plateau, même assez ensoleillé en Valais, mais toujours nuageux sur le versant nord des Alpes et le Jura. Il fait jusqu'à 4 degrés en plaine avec un peu de vent, plus fort en montagne et moins 9 degrés à 2000 mètres.
La vie à peu près, Florence Grivel.
Nicolas Masson est l'invité cette semaine de La Vie à peu près. Aujourd'hui, dernier épisode qui lui est consacré. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Soyez les bienvenus. Quand je joue, j'ai des images en tête. Je cherche des géométries dans le son. Parole de Nicolas Masson qui a dû prendre le transsibérien pour trancher enfin entre deux carrières possibles. J'avais 19 ans, je me suis rendu compte sur la route que la musique était plus forte. Mais depuis, la photographie n'a cessé de me rattraper. Quand j'ai reçu mon premier cachet d'ICM, j'ai acquis un appareil photographique dont je me sers encore. On le connaît donc aussi par les images, il photographie ses amis musiciens, mais aussi des paysages urbains et naturels. Sa quête visuelle nous raconte aussi son jazz. Quelque part, il est écrit « Veines d'un bois vieux qui tourne en torrent, des roches volcaniques qui semblent reprendre leur mouvement, une enseigne lumineuse qui luit dans une friche abandonnée ». Quelqu'un d'autre a écrit à propos de ses photos, il y a chez lui le monde comme champ de mélancolie contrarié par la beauté. Nicolas Masson a déjà réalisé plusieurs pochettes pour son label allemand ICM. Ce dernier épisode est intitulé « Des photos et un solo » et il est au bon soin Daniel Éveillé.
Bonjour Nicolas Masson.
Bonjour.
Nous parlions hier de vos enregistrements avec Manfred Escher pour le célèbre label ECM ou ICM. Edition of Contemporary Music.
C'est ça, oui, oui.
Et là, j'ai une photo d'un des booklets, donc une photo de couverture d'un des albums que vous avez sorti avec votre trio, Third Wheel. Une de vos photos, qu'est-ce qu'on y voit sur cette photo? Parce que là, ça pourrait être presque une photo spatiale, non? Avec des étoiles.
On pourrait y voir, ouais, effectivement, une constellation, mais en fait, c'est simplement le reflet sur la mer, sur l'océan, en fait. C'est une photo que j'ai prise, je crois, à l'île d'Oléron. C'était au coucher du soleil et c'est des reflets de ce soleil rasant sur les vagues. Donc c'est une image qui est en noir et blanc. Et ce que j'ai aimé faire, c'est chercher l'abstraction aussi. J'ai fait beaucoup d'images de nature qui finalement sont un peu abstraites. J'utilise des éléments naturels, beaucoup de roches et beaucoup d'eau en fait. J'ai toujours pas très bien compris pourquoi je fais tellement de photos de roches et d'eau, mais c'est comme ça. J'ai toujours une fascination pour ces éléments immémoriaux, en fait. Ils sont là depuis toujours. Je suis toujours en train de me demander, quand je regarde une belle roche, que ce soit dans nos montagnes ici ou bien au bord de l'océan, que contiennent ces roches, toute l'histoire, en fait, comment elles ont été formées, quels étaient les sons à l'époque de la formation de ces roches, quels sont les mouvements de terrain, à quoi ressemblait l'environnement à ce moment-là. C'est cette matière en transformation, alors là qui est figée en l'occurrence pour ce qui est des roches, mais c'est pas éternel. L'érosion agit surtout dans l'océan. Et puis quand on voit l'eau, ben c'est pareil, c'est aussi un élément minéral en constante mutation qui est toujours identique, mais en même temps toujours différent. Et c'est peut-être un peu ça ma fascination pour ces éléments.
Est-ce qu'en revoyant cette photo et en la mettant peut-être en parallèle avec le programme de ce disque, de Many More Days, c'était votre deuxième album avec Third Wheel.
Oui, c'est ça.
Enregistré pour ECM. Est-ce qu'elle reflète aussi quelque part votre cheminement esthétique musical de cet album, cette photo?
Oui, je pense que il y a clairement un lien. Il y a clairement un lien. C'est toujours difficile, au fait d'en parler très précisément, parce qu'il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Clairement, quand j'ai fait cette photo, je pensais pas à ECM quand je l'ai faite. c'est quand même quelque chose que, quand je regarde mes photos anciennes, en fait, je retrouve souvent de ces thématiques J'avais un peu oublié, mais récemment j'ai fait un peu de l'ordre. On a fait de l'ordre à la maison. Du coup, j'ai retrouvé un peu des archives, des vieux tirages que je faisais dans ma cave quand j'étais ado. Et je vois que ça m'a attiré quand même, ce genre de sujet. Alors, je sais pas, j'ai toujours eu un intérêt pour l'espace, j'ai toujours un intérêt pour les lieux ouverts, dégagés. J'aime les déserts. Alors après, quand on a un album, puis qu'on essaie de proposer des images pour en faire une pochette, on essaie de trouver une adéquation, une résonance avec la musique. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai suggéré des images à Manfred Eicher, qui m'en avait demandé à l'origine. J'essaie de lui faire une petite sélection d'images qui, je pense, peuvent entrer en résonance avec la musique.
Parce que c'est vrai que, par exemple, pour votre album Travelers, aussi enregistré avec une quartette pour SM, on voit justement une composition entre l'eau et la roche.
Ouais.
Et on pourrait s'imaginer que c'est une photo qui pourrait être prise dans un fjord norvégien, alors que vous l'avez prise au bain des Paquis.
Voilà, c'est au bain des Paquis, effectivement, par un soir de brouillard, comme ça. Donc, on ne voit pas la jetée, mais on voit les roches qui sont à la gauche de la jetée, si on regarde le phare. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté assez mystérieux, parce qu'on voit qu'il y a de l'eau, on voit qu'il y a du brouillard, on voit ces roches. Et puis, on ne sait pas trop où ça mène. C'est un peu entre deux eaux, comme ça, un peu entre deux mondes. L'album, je l'avais appelé Travelers parce que c'est le titre d'une des compositions, mais je l'avais appelé comme ça aussi parce que c'est une image de ce qu'on est, en fait, dans nos vies. On fait que voyager, on traverse notre époque. On est là que de passage. Une partie de nous était là avant, une autre partie sera là après, probablement sous une forme ou sous une autre. Et cette image, pour moi, elle représente un peu ça. C'est un peu comme une sorte d'entre-deux mondes.
Mais finalement, Nicolas Masson, donc, comment est-ce que vous êtes devenu photographe? Parce qu'on a effleuré par petites touches votre passion pour la photographie, que vous avez toujours pratiquée des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mm-hmm. Vous avez fait des photos pour le Grand Théâtre de Genève, pour l'Opéra. Vous avez photographié des productions d'opéra, de ballet. C'était aussi comme un boulot alimentaire à un moment donné.
Oui, absolument.
À Genève. C'est fait un peu naturellement et sans non plus construire un plan de carrière, finalement.
Non, parce que j'ai... En fait, même encore aujourd'hui, j'ai de la peine à me considérer comme photographe, en fait. Je suis plutôt un musicien qui fait des photos. Il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il y a une question de timidité parce que j'ose pas l'affirmer, mais aussi quelque chose que je défends parce que j'aime bien la naïveté et l'innocence que j'ai par rapport à la photo. Ça me permet beaucoup de liberté aussi. Parce que justement, j'ai pas de plan de carrière, je cherche pas à exposer mes images, je cherche pas à faire un livre, je cherche pas à séduire un marché. C'est déjà assez dur d'être sur un marché artistique avec la musique. et ça me laisse beaucoup de liberté, en fait. Pour moi, c'est beaucoup un champ d'exploration. Et c'est aussi une manière d'apprivoiser, en fait, une certaine façon de sentir les choses dans ma démarche artistique. C'est un complément à mon travail d'improvisateur, instrumentiste et compositeur aussi, même si c'est un grand mot, j'écris que pour des petites formations, mais quand même. Voilà, c'est une manière pour moi d'essayer d'apprivoiser, de comprendre ce à quoi je suis sensible, pourquoi je réagis à ça et qu'est-ce que je produis quand je suis sensible à quelque chose. Qu'est-ce que je produis comme son, qu'est-ce que je produis comme note sur une feuille de papier, et qu'est-ce que je produis comme image. C'est un terrain d'exploration précieux pour moi. Et j'aime bien que ça reste un peu ce petit monde un peu privé comme ça. Alors c'est contradictoire parce que mes photos, en fait, ont été publiées depuis longtemps. Maintenant, ça fait des années que mes images sont publiées d'une façon ou d'une autre.
Quand on compare justement votre univers sonore aujourd'hui et votre univers visuel en tant que photographe, il y a quand même on peut parler de quelques éléments qu'on retrouve dans ces deux domaines qui sont évidemment très très différents, mais la notion d'espace, de souffle, d'ouverture, de chemin, de voyage, on peut faire des comparaisons entre votre démarche en tant que saxophoniste et celle de photographe.
Ah, je pense, c'est en tout cas pour moi, actuellement c'est devenu... très évident, ça l'a pas été pendant longtemps. Justement, comme je le disais juste avant, c'est un champ d'exploration, une manière de mieux comprendre mon processus créatif. Puis maintenant, je me suis rendu compte que c'était qu'une seule chose, en fait. Je suis avant tout musicien, mais j'ai ces autres facettes, et c'est des choses dont j'ai besoin. J'ai pas C'est pas plus compliqué que ça. Le matin, quand je me lève, j'ai envie de faire de la musique. Et puis, quand j'ai pas mon instrument et que je suis quelque part, j'ai envie de faire des images. C'est un besoin que j'ai, auquel je n'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de me motiver pour le faire. C'est une nécessité.
Il vous arrive des fois de partir quelque part pendant un jour ou deux jours uniquement dans l'idée de faire des images, par exemple. Enfin, tout, ou bien non, c'est vraiment, ça vient de manière très spontanée.
Jamais. Ça peut m'arriver de sortir avec mon appareil photo parce que tout à coup, il y a une belle lumière en extérieur. Et puis, ça peut m'arriver de faire ça. Mais non, en général, c'est parce que j'ai toujours un appareil photo avec moi. Et puis, et ça me maintient occupé aussi. C'était aussi ça, une période après toute la phase du Grand Théâtre et tout ça. J'ai plus fait de photos du tout pendant plusieurs années, jusqu'à ce que mon fils naisse en 2010. Et puis, bah là, j'avais moins de temps pour faire de la musique. J'avais moins de temps avec mon saxophone. Et je sais pas, j'avais besoin de faire quelque chose de créatif. Et j'ai envie de faire des photos de mon petit garçon aussi. Alors, j'ai racheté du matériel que j'avais plus tellement. Et j'ai recommencé à faire des images. Et puis, comme on se baladait beaucoup avec la poussette dans la nature, bah, j'ai commencé à faire des photos de nature.
Vous travaillez avec un appareil numérique ou argentique?
Alors, essentiellement numérique. Mais je continue de faire de l'argentique, toujours en moyen format. J'ai toujours un Hasselblad avec lequel je fais des portraits.
Vous occupez notamment des photos pour le journal de l'AMR, Viva la Musica, depuis plusieurs années maintenant. Vous faites des photos, oui, de concerts, des portraits d'artistes aussi.
Oui, oui. Je fais plus beaucoup de photos de concerts, mais surtout des portraits, en effet.
C'est difficile de faire des photos de concerts.
Oui, je l'ai beaucoup fait, justement, quand j'étais ado, en allant au concert à l'AMR. Puis après, je l'ai beaucoup fait à l'opéra. Et puis, c'est finalement pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça actuellement. Parce que ce qui m'intéresse, quand je fais des photos de personnes, c'est la relation, en fait. Bah, je suis quelqu'un de plutôt timide et réservé, donc j'ai pas un grand réseau social. Je suis pas quelqu'un de ultra... Mais il y a des gens que je côtoie comme ça sans trop les connaître. Mais ce moment de faire une image avec ces personnes, c'est un moment très riche pour moi et très important. Et j'aime ce contact, donc je préfère vraiment faire des photos où on est à deux personnes en train de créer des images ensemble plutôt que de voler des images lors d'un concert, par exemple.
Ça, c'est les portraits. Et justement, quand vous collaborez avec SCM, là, on est dans un univers plus abstrait. Il y a des paysages ou comme là, j'ai une photo devant les yeux, je ne sais même plus de quel album.
C'est sur un disque de Lina Duni.
C'est aussi les Bains des Paquis, non? Ou c'est une jetée?
C'est les Bains des Paquis aussi, avec une mouette, le bateau, la mouette, qu'on devine dans le brouillard. On voit surtout son phare.
Mais ça devient presque reflet. Une composition abstraite, effectivement. Enfin, on ne distingue plus très bien les éléments. Manfred Eicher, justement, qui a un goût très sûr pour tout l'environnement artistique de son label, qu'est-ce qu'il vous demande en tant que photographe, justement, quand il vous contacte en disant « j'aimerais bien que tu fasses la pochette, par exemple, du trio de Colin Vallon ».
Bon, en fait, il ne me demande rien. C'est juste... pareil, la photo, en fait... Maintenant, j'ai quand même fait pas mal de pochettes pour ECM, mais c'est venu aussi un peu comme ça. C'est que pour un précédent disque de Colin Vallon avec son trio, il avait besoin de photos de groupe. Et puis, moi, je pense qu'il savait que je faisais un peu des photos. Et j'ai fait une photo de son trio à Vevey. Et puis, Manfred Eicher l'a bien aimé. Puis, il l'a mise sur la pochette, à l'arrière de la pochette, ce qu'il fait très rarement. Et donc, ça m'a surpris. Puis, il a vu cette photo. Puis, il m'a dit, je ne savais pas que tu faisais de la photo. J'aime bien. Envoie-moi des images. Et du coup, je l'ai envoyé. Enfin, je ne sais pas. J'ai fait un peu une sélection large. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Et je lui envoyais un certain nombre de photos, dont une qu'il a sélectionnée pour un album d'Heinz Soliger, une photo que j'avais prise dans les Grisons.
La photo d'une route.
Ouais, c'est un petit route de montagne. Et puis voilà, on voit les pâturages à flanc de montagne comme ça. Puis il avait neigé. Et comme le pâturage a plusieurs niveaux à cause du bétail, ça fait une alternance de lignes blanches de neige et de lignes sombres de l'herbe.
Il y a des traces, on parlait de traces.
Voilà, toujours les traces et les chemins. Donc voilà, je lui ai envoyé pas mal de photos comme ça. Et je pense qu'il regarde un peu les photos. Et puis, quand il travaille sur une production, il a la musique en tête. Puis, il regarde les images. Puis, il regarde ce qui résonne avec la musique. Et puis après, pour d'autres photos, c'était une demande plutôt des artistes. Lina Duni m'a demandé de lui proposer des images parce qu'elle connaissait, je pense, cette photo-là. La photo donc de Heinz Soliger.
Il y a des photos de gare dans l'un des albums d'Elina.
Oui, parce que c'était toujours la thématique du départ et du voyage. Donc ça, c'était une photo que j'ai prise de nuit dans une gare à Domodossola, en revenant justement de Lugano, une fois où il y avait une annulation de train, puis j'étais bloqué sur un train de gare de nuit. Et puis voilà, il y avait ces rails avec ces signes uniquement à l'usage des conducteurs de train, mais qui date d'une, je sais pas, ça pourrait être une photo qui date des années 40. On peut pas très bien les situer, donc ça m'a rappelé des images d'Exode et voilà qui sont complètement intemporelles en fait.
Ou encore cet album Danse du trio de Colin Vallon, où il y a effectivement une danse d'arbres en fait. On voit ces arbres, j'imagine, qui sont en mouvement à cause du vent qui souffle. Ça pourrait être une photo assez tropicale, ça pourrait être des palmiers, alors que pas du tout.
Non, ce sont en fait les oliviers du jardin de Salvador Dali à Porlligat, en Catalogne. Voilà, il y avait une tramontane qui soufflait vraiment très très fort ce jour-là. Et puis je trouvais ça très beau, ces mouvements de branches de ces oliviers. Déjà, je trouve que l'olivier est un très bel arbre. J'ai choisi de faire des photos avec un temps de pause assez lent, pour un peu brouiller les pistes, une fois de plus chercher un peu quelque chose de plus abstrait dans ces images. Et puis Colin aime beaucoup tout le monde végétal, donc voilà, cette image, je pense qu'elle lui a parlé.
Voilà, il y a ce mouvement et la danse.
Ouais, ouais.
Et le mouvement et la danse dans vos projets, Nicolas Masson. Donc en 2019, vous avez enregistré un solo, donc vous avez évidemment vos collectifs, et puis il y a eu ce moment peut-être où vous avez voulu explorer autre chose, vous retrouvez seul avec votre instrument, pas l'appareil photographique, mais l'instrument, le saxophone, et donc ça aboutit au projet solo Neverending, qui est d'ailleurs là devant nous,
oui.
avec une photo très minérale. Là, on est dans un
rocher. Oui, c'est un rocher au Portugal, en fait, au bord de l'océan.
Et ce solo, en fait, pourquoi avoir décidé à ce moment-là de vous retrouver seul?
J'ai fait ça en été, et c'était un été où j'avais pas grand-chose à faire, j'avais pas beaucoup de concerts, puis j'avais envie d'avoir un challenge pendant l'été, je voulais faire quelque chose. Et c'était aussi, je pense, une période pour moi aussi musicalement, où j'avais déjà fait 3 albums pour OCM, puis j'avais peur de me perdre un petit peu, en fait, de m'identifier un peu trop au label et à une certaine vision qu'on peut avoir de ce label et de son esthétique. Et c'était une période où je pense que j'avais besoin de savoir où j'en étais artistiquement. Et j'ai fait vraiment... Alors je me suis dit, OK, je vais faire du solo, parce que je vais voir qu'est-ce qu'il y a à la moelle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quand je ne joue pas avec des gens, quand je ne suis pas en train de faire un disque, je ne suis pas en concert. Qui est ce musicien? Qu'est-ce qu'il a à dire? Donc j'avais envie de me mettre au défi à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je peux proposer musicalement en étant tout seul avec un instrument monodique? Ce qui est vraiment pas simple. Et j'ai vraiment préparé cet enregistrement comme si c'était... pu réserver une salle au conservatoire, la salle d'Agostini, au conservatoire populaire. Vu que l'été, il n'y avait personne, ils m'ont laissé utiliser la salle de jour. Je voulais vraiment me mettre dans un contexte où j'étais forcé de faire les choses sérieusement, mais je n'avais pas du tout l'intention de faire un disque. Donc j'empruntais des bons micros, une carte son, je me suis isolé 2 jours, et j'ai préparé ça pendant 2 ou 3 semaines. J'ai vraiment fait un travail un peu historique où j'ai réécouté toute la musique qui m'avait marqué. Depuis Iron Maiden, en passant par Slayer
et
Joni Mitchell et Bach et bien d'autres, en fait, compositeurs contemporains aussi.
Stockhausen.
Ouais, bien sûr, les pièces pour clarinette solo de Stockhausen qui m'ont beaucoup marqué aussi à une certaine époque. Et la musique de Benjamin Britten, les suites pour violoncelle solo de Benjamin Britten. Et voilà, j'ai écouté toutes ces choses, et puis après je les ai mis de côté, et j'ai sélectionné parmi les compositions que j'avais déjà enregistrées dans le passé, des pièces que j'avais assez envie d'explorer seul, et quelques pièces de Paul Motion, qui restent quand même pour moi une influence majeure. Et voilà, je me suis enfermé 2 jours, j'ai enregistré ce projet. Voilà, pour moi c'était fin de l'histoire, jusqu'à ce que le Covid arrive, et puis que... ça devient un projet en soi aussi, de réécouter ça. J'étais finalement assez content de ce qui s'était passé pendant ces 2 jours. Et évidemment, j'étais très... je n'osais pas faire écouter, en fait, ça, simplement, parce que...
C'est trop intime.
C'est trop intime. C'était moi tout seul, à nu, comme ça. Alors, je l'ai fait écouter à une personne de confiance d'abord, qui m'a dit, mais c'est super, il faut vraiment que tu t'en fasses quelque chose. Je dis, ah, mais tout le monde s'en fiche d'un type tout seul avec son saxophone, ça n'intéresse personne, blablabla. Et je l'ai fait écouter une deuxième personne, et puis qui m'a dit aussi que c'était encourageant. Puis j'ai commencé à y réfléchir, puis il y avait ce Covid qui était là. Puis je me suis dit, bon, je vais faire ça va m'occuper, je vais faire une étape suivante, je vais le mixer. Et donc j'ai fait appel à quelqu'un, on a mixé ça. Et puis j'ai trouvé ça bien. Puis après, je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas, je fais un vinyle, puis j'ai envie de faire un bel objet. J'ai travaillé avec un graphiste norvégien qui est ami du Eivind Opsvik, le contrebassiste norvégien de mon premier quartet, qui a un label et qui travaille avec lui. On a travaillé ensemble sur la pochette, puis je voulais un joli objet, on a fait un vinyle qui est sorti du coup pendant le Covid, mais c'était pas, musicalement, c'était pas un projet Covid, c'était venu avant.
Et le solo, donc l'expérience solo, c'est pas quelque chose que vous avez envie de recommencer ?
Si, c'est juste, ça me fait très peur.
Donc même après avoir traversé justement toutes les étapes et tout ce cheminement.
Oui, oui, non, c'est, en fait, je l'ai fait, j'ai fait quelques concerts en solo, pas beaucoup, j'en ai fait 3 ou 4, dont un qui était très intense au Festival Honor Earth à Zurich. C'était très intense parce que c'est un peu toute la petite scène zurichoise de la musique improvisée. C'est une soirée où juste après, il y avait Tim Burns qui jouait avec Chris Speed, avec Reed Anderson et puis Dave King à la batterie. Donc c'est des musiciens que, en tout cas Tim Burns et Chris Speed, j'avais tellement admiré depuis les années 90 quand je les ai vus tout jeunes, surtout Speed qui devait avoir 20 ans. Puis de voir jouer un solo devant ces gens-là, c'était un peu terrifiant pour moi. Mais... voilà, c'est en même temps une expérience assez incroyable et c'est particulier en fait parce que même si je suis seul, j'ai pas l'impression de jouer seul quand je fais un concert en solo. Ça fait très peur parce qu'on a personne pour être avec soi, on peut pas se reposer sur le talent des autres.
On a pour un faire... instrument mélodique en plus, on voilà. peut se couvrir par des accords.
Exactement, je dois tout créer tout seul, je peux pas faire dès que j'arrête de souffler, il y a plus de son. Surtout que ben là, là où c'était, où avait lieu ce concert à Zurich, c'était très beau. C'est une serrurerie, un atelier en fait, qui mettent à disposition pour la durée du festival. C'est un des lieux, mais c'est pas une scène qui est très porteuse au niveau de l'acoustique. Donc voilà, il y a ce truc de gestion du son. Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête tout de suite comme ça? Idéalement, ce que j'aimerais bien poursuivre. Vous parliez de mouvement, alors j'ai un peu une extension à ce projet en solo avec de la danse, avec la danseuse Marthe Krumonacher. On a fait 2 performances en public jusque-là, on a fait une vidéo aussi. Je trouvais ça très très intéressant aussi. C'est une voie d'exploration pour moi, mais c'est plus tout à fait du solo non plus. Musicalement, peut-être un peu, mais autrement, en tant que performance, pas du tout, parce qu'on est en interaction quand même, donc c'est vraiment une autre dimension. C'est quelque chose que je voulais explorer depuis longtemps, que je suis vraiment très heureux qu'on ait pu faire ça. Oui, le solo, il faudrait que je me donne les moyens aussi de trouver des lieux, puis d'oser un peu plus vendre ce projet, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à chaque fois, et que c'est comme un laboratoire pour moi d'exploration, et de où ça me remet à ma place, en fait, simplement à ma juste place, modeste place. Voilà, je sais faire ça tout seul, et c'est ça que je suis.
C'est comme un portrait, quelque part.
Un peu, mais quand même partiel, parce que bah, quand je joue avec mon quartet, on a beau être 4, mais ça fait quand même 20 ans qu'on joue ensemble. Alors c'est une aventure qui se partage à 4, il peut exister presque que nous 4 ensemble finalement, parce que la musique que j'écris pour ce groupe-là, je la conçois que pour nous 4, les musiciens ne sont pas tellement interchangeables. La musique qu'on fait, c'est la résultante de nous 4. Il y a très peu de formats où un va faire un solo pendant que les autres accompagnent, c'est presque tout le temps collectif. Mais étonnamment, j'ai presque plus l'impression que ça, c'est un portrait plutôt que mes concerts en solo.
Portrait collectif.
Oui, c'est très curieux. Je n'ai pas encore tout à fait bien compris comment ça fonctionne, ces choses-là. Il faut que j'investigue un peu.
Et entre le solo, le quartet, est-ce qu'il y a d'autres formes et d'autres formats que vous avez envie d'explorer aussi? Peut-être même des projets avec plus de monde, avec voilà, une autre écriture aussi, parce qu'évidemment, le nombre de personnes et les personnes vont influencer complètement votre écriture et votre esthétique.
Oui, oui, bien sûr. Là, j'ai plein d'envies comme ça, mais beaucoup de choses qui restent encore dans le flou. Un peu plus concret, j'ai de nouveau un trio guitare, batterie et saxophone, mais dans encore une autre version, parce que Third World s'est terminé il y a quelques années. En fait, c'est un format qui me manque quand je ne l'ai pas, le trio. Et j'ai rencontré le guitariste britannique Rob Loft par Lina Duny. C'était le dernier été après le Covid, d'ailleurs, je me rappelle. On s'est vu une fois comme ça, juste pour jouer. Ça faisait plaisir de rejouer avec des gens. Il y a eu vraiment une vraie connexion musicale avec Rob Loft. Et on a décidé de faire un projet ensemble. On a essayé avec quelques batteurs. Et puis, finalement... On a eu un coup de cœur quand on a joué avec Valentin Lichtig, un jeune batteur genevois. Voilà, on a fait quelques concerts, on va jouer à Londres en avril prochain, donc ça va être une voie à explorer. Après, il y en a d'autres, il y a l'image en mouvement, comment ça m'intéresse de plus en plus. Je ne sais pas si je vais en faire quelque chose, de travailler de la vidéo. Pour l'instant, j'accumule un peu des rushs comme ça, un peu maladroit. On verra, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça.
Never ending.
Never ending.
Nicolas Masson, merci beaucoup.
Merci Agnès.
Cette série de votre vie à peu près, Never ending. On peut écouter un extrait, qu'est-ce que vous en pensez de terminer sur un solo?
Avec plaisir.
Si vous êtes d'accord de vous réécouter.
Oui. On pourrait peut-être... écouter une pièce qui s'appelle White, que j'ai composée ici, vu que le premier jour, on avait parlé de ce lieu, enfin, l'appartement là où j'habite avec ma famille. Et c'est une pièce que j'ai composée ici, dans la pièce à l'arrière qui donne sur une petite forêt. Puis il neigeait ce jour-là, c'était tout blanc, c'était magnifique. Et c'était le jour où le grand pianiste Masabu Mikikuchi est décédé. Et c'est un pianiste que j'ai beaucoup aimé, qui a collaboré aussi avec le label ECM d'ailleurs. Et j'avais écrit cette pièce en hommage à Masabu Mikikuchi et je l'appelais White.
Merci beaucoup Nicolas Masson.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Thank you.
White de Nicolas Masson, tiré de l'album Neverending, hommage de Nicolas Masson au grand pianiste qui venait de disparaître alors, Masabumi Kikuchi. Nicolas Masson, dont nous avons suivi tout au long de cette semaine La vie à peu près, c'est une proposition d'Daniel Éveillé. La vie à peu près, c'est une coproduction Daniel Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zanou, réalisée par Gilles Ozaman. Vous pouvez en tout temps réécouter les 5 épisodes via l'app Play RTS ou par le podcast de La vie à peu près. Belle suite de journée à vous sur Espace 2, il est 14h.